Bonjour à tous et à tous ceux que j'ai pas eu le temps de voir ce matin. Bonjour. Alors ce matin, je vais. Bon, j'ai. Donc ce matin, je vous propose de lire le passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Bon, bien sûr, je sais que c'est pas Noël. Et je ne veux pas attendre Noël pour relire ce passage. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. C'est pour ça que je vous ai mis un peu de musique, un peu pour vous mettre dans le. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que dit le prophète qui a écrit. Prophète, il n'est pas mentionné. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas la plus insignifiante des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à genoux. Ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Là où je mettrai l'accent au fur et à mesure sur ce passage, c'est sur ces trois étrangers qui sont venus de très loin. Ils ont fait un long voyage. Je ne sais pas s'il n'y a pas plus de 10 000 kilomètres entre Jérusalem et l'Orient. Et donc, je vais commencer un peu à parler un peu de ce qui se passe. Et après, je ferai un grossissement sur ces trois mages. Enfin, trois. Ne vous inquiétez pas, je vais y venir, hein. Et roi aussi, c'est. Mais je vais y venir. Alors, je sais que c'est pas Noël, donc j'en profite quand même pour le faire là. Donc, les événements qui se sont déroulés lors de la naissance de Jésus, apparemment, ne sont pas passés inaperçus pour certaines personnes. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est pas passé inaperçu pour la famille de Jean-Baptiste, c'est pas passé inaperçu pour les bergers, c'est pas passé inaperçu pour les mages. Jusqu'en Orient, c'est pas passé inaperçu. Et les bergers, n'en parlons pas, qui ont eu le droit à un concert des anges, spectacle, ils étaient en première ligne à ce spectacle. La naissance de Jésus a eu un impact mondial, comme aucun autre événement. Mais malheureusement, comme nous rappelle cette parole de Jean, dans Jean chapitre 1, versets 9 à 11. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Un événement mondial est attendu pour certains depuis des siècles. Au moment où il arrive, il n'y a pas grand monde qui est présent. Comme on dit, comme tu disais un peu dans ta prière, on voudrait hâter la venue du Seigneur, mais au moment où il arrivera, on sera où? Un événement mondial attendu depuis des siècles, et lorsqu'il arrive, c'est dans la plus grande indifférence qu'il est accueilli. C'est comme chaque année, on fête Noël, le monde fête Noël dans une indifférence totale de ce qui est Noël dans la réalité, le sens de Noël. Au contraire, c'est qu'on préfère plutôt faire, je dirais, des procès aux institutions, aux mairies, lorsqu'ils mettent des crèches dans la mairie, on va leur faire des procès sous le prétexte de la sainte et sacrée laïcité. Veillons et prions afin que, aussi dans l'Église, je parle de l'Église universelle, que cette indifférence ne vienne pas nous toucher et nous entamer comme une maladie au sein même de l'Église. On peut aussi se laisser bercer par les habitudes et les rythmes des habitudes, comme lire sa Bible, prier, venir au culte. Parfois, on peut le faire par habitude. Je crois que l'on peut aussi devenir indifférent aussi à la parole de Dieu, je le crois. Dans le monde, on parle souvent, et là j'y viens, de trois rois mages. J'ai toujours entendu ça depuis que je suis petit. Trois rois et mages. Moi, des fois, j'oublie, hein, même des fois quand je pars, je dis, les rois mages. Non, pas rois, mages. Donc, le monde nous en a souvent parlé. On voit même des petites figurines à Noël. Il y a deux blancs et un black. On ne sait pas pourquoi. Donc, ils sont venus d'Orient et ils auraient suivi une étoile, mystérieuse étoile, et qui les aurait conduits jusqu'à Bethléem. Mais avant d'arriver à Bethléem, ils sont passés par Jérusalem. Et donc jusqu'à Bethléem, là où le lieu, là où Jésus se trouve, là où il est né dans cette ville. Et je suppose que tout le monde a écouté cette chanson. Je pense qu'on y est toute la génération. Shella, oui, hein. Comme les rois mages en Galilée, qui ont suivi l'étoile du berger. Hein. Vous connaissez cette chanson, hein. Même encore aujourd'hui, on nous la repasse. Hein. Alors, comme les rois mages, évidemment, ils n'étaient pas rois. Rien ne le prouve. Pas écrit. En Galilée, ça m'étonne, plutôt en Judée. Alors, étaient-ils que trois? Ça, c'est la question. Étaient-ils que trois? On ne sait pas. Mais je pense que j'imagine bien, moi, une caravane traversant, en plus avec ce qu'ils transportaient, l'or et tout, vous m'êtes bien accompagné. Ouais, j'imagine bien une caravane de chameaux, de dromadaires. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas restés discrets quand ils sont arrivés à Jérusalem, d'ailleurs. Donc, dans la Bible, il n'est pas mentionné non plus qu'ils étaient rois. On ne connaît pas non plus la couleur de leur peau, comme on veut le montrer parfois dans la littérature, dans les peintures. Et on ne connaît pas non plus leur nom. Ce n'est pas Melchior, Balthazar, Tahar et compagnie, non? C'est pas tout ça, on ne sait pas. Donc, tout d'abord, les rois mages donc, sont partis de l'Orient vers Jérusalem, puis à Bethléem. Mais eux, ils sont allés directement à Jérusalem, dans la grande ville. Moi, si je veux voir un monument historique, quelque chose d'extraordinaire, je vais aller dans la grande ville, Paris, pour aller voir ce bout de ferraille qui est posé sur le sol, la tour Eiffel. Et voilà, c'est là que j'irai, dans une grande ville. Donc eux, ils vont à Jérusalem. Et là, ils commencent à chercher. Alors peut-être qu'ils sont interpellés, les gens, en se disant « Ah bon, il s'est passé quelque chose, on n'est pas au courant ». Certainement que pour eux, dans leur idée, c'était que un roi, ça naît dans une grande ville. La grande ville de Jérusalem, la grande cité de Jérusalem, c'est là qu'il doit être. Et ils interrogent les gens. Il est où? Il est évident que les mages, j'allais dire les rois mages, il est évident que les mages ne connaissaient pas la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, au jour ancien. Alors, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils devaient s'attendre certainement à une grande fête, machin, avec des banderoles et tout, le roi est né, machin. Et en fait, non. Il n'y a rien du tout. Rien. Peut-être tout ce qu'ils doivent voir, c'est certainement des gens qui vont et qui viennent pour le recensement. Ça devait beaucoup circuler. Donc eux, ils s'attendaient à voir une fête, et en fait, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils posent, je dirais, naïvement la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ah, tu me poses une question comme ça, franchement, si ça ne m'interpelle pas, pardon, un roi? Roi de mon peuple. Il est né, il est où? Nous sommes venus l'adorer. Mais il n'y avait rien, pas de spectacle pour ce roi qui venait de naître, rien d'extraordinaire. Alors que les anges ont fait un concert pour les bergers. Les bergers les ont entendus. Par contre, il y en a un, lui, qui est bien informé, c'est Hérode. Il a ses petits agents secrets qui parcourent la ville et qui l'informent de toutes les petites choses bizarres, surtout les étrangers. Hein? Dès qu'il y en a un qui est basané un peu, « Ah tiens, faites-le venir celui-là, je voudrais voir ses papiers, demandez-lui ses papiers, ainsi de suite. » Hérode est informé de la présence des mages dans la ville. Il est intrigué. Ça lui pose question à lui, qu'il est obligé de convoquer tout le monde, parce que apparemment ça leur pose pas question. Il convoque les chefs religieux qui lui confirment que le Messie est annoncé par le prophète Michée et que sa naissance aura lieu à Bethléem. Ah, c'est là! C'est pas à Jérusalem, c'est à Bethléem. Et là, Hérode s'inquiète, là. Ils se sont un peu menacés, là. Un autre roi qui doit naître, là. Ça me dérange un peu, ça. Est-ce qu'il va pas prendre ma place, celui-là? Il craint pour sa couronne. Il fait venir les mages. Donc, c'est clair, les mages sont pas passés inaperçus à Jérusalem. Ils ont vite été convoqués par le roi Hérode. Il fait venir les mages, et c'est comme cela que les mages ont appris que c'était pas à Jérusalem, mais que c'était à Bethléem, par la bouche d'Hérode, en fait. Ils ont su où était l'endroit exact. Donc, merci Hérode de nous avoir informés. Ils n'ont pas eu à chercher longtemps, certainement. Hérode les envoie à Bethléem, comme on a pu lire dans le passage, faire un peu les espions, parce qu'apparemment il a beaucoup d'espions, même parmi les siens il a des espions, mais aussi le premier voyageur qui arrive, il s'en sert comme espion. Il les envoie à Bethléem pour avoir des informations sur le lieu exact où est l'enfant. Les mages sont guidés par une étoile qui s'arrête au-dessus d'une maison. Donc moi j'ai dans mon texte, dans ce récit, nous raconte que le lieu n'est pas une étable, mais une maison. Le séjour à Bethléem a dû durer plusieurs jours. Je pense pas qu'ils soient venus repartis dans la seconde. Ils sont venus, se sont installés. Donc je pense que ça a duré plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, avant le départ en Égypte pour Joseph et Marie, qui aussi ont dû s'installer dans cette maison pour un bon moment. Les mages ont été avertis dans un rêve. Donc je suppose qu'ils me confirment qu'ils ont bien passé la nuit sur place, qu'ils étaient dans les parages, qu'ils étaient là tout près. Donc les mages ont été avertis par un rêve de ne pas repartir vers Hérode. Et dès leur départ, Joseph, qui est averti lui aussi de fuir en Égypte à cause de ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'Hérode va massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans, 3 ans, ça dépend de l'interprétation, peu d'importance, mais c'est des enfants. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Je reviens plus particulièrement, bien sûr, sur nos trois compères, les mages, qui se trouvent devant Jésus, devant un bébé de quelques jours. Ils se prosternent. Et aujourd'hui, dans l'islam, pas d'image, on ne se prosterne pas devant qui que ce soit. C'est pas d'image de Dieu, rien, aucune représentation, même pas du prophète Mohammed, il n'y a pas de représentation du tout. C'est interdit. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour vous avez eu l'occasion, par hasard, de regarder le film Le Prophète, l'histoire de Mohammed, qui a été fait d'ailleurs à l'époque, c'était Anthony Quinn qui jouait le bras droit de Mohammed. Et ben dans le film, on voit pas le visage du prophète. C'est la caméra qui fait son regard. Donc il trouve l'enfant. Et comme c'est la coutume en Orient et même en Afrique du Nord, et ben chez nous normalement quand on vient chez quelqu'un, on vient pas les mains vides. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, qu'il y avait là les cousins, les oncles qui venaient à la maison. Ils ramenaient tout le temps des gâteaux à la crêpe. C'est pour ça que vous comprenez ma situation parfois avec les gâteaux. Des gâteaux à la crêpe, des gâteaux immenses, des éclairs au chocolat. Je vous donne faim là, hein, non? Et c'était tout le temps, c'est tout le temps comme ça. C'est une marque de respect. On vient pas les mains vides. Et des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient chez toi pour la première fois, on lui donne un paquet de café, un paquet de sucre. C'est comme ça. C'est la coutume. Donc, ça se perd un peu maintenant, parce que moi, je le fais plus. Je mange des gâteaux avec du café. Comme c'est la coutume en Orient, comme chez les Arabes en général, on apporte des cadeaux. C'est une marque, la marque d'un profond respect. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous sommes arrivés les mains vides et sales. Aujourd'hui, que nous le connaissons, nous essayons de venir avec les mains propres et pleines. Pleine de quoi? Pleine d'amis, pleine de connaissances, pleine de relations. et surtout pleine de reconnaissance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il nous arrive encore de venir avec les mains sales. Les mages ont offert des cadeaux, des beaux cadeaux. Et c'est une véritable fortune qu'ils lui ont offert. De l'or. L'or symbolise la royauté de Jésus. Nous reconnaissons que tu es roi. Nous t'apportons de l'or. Métal royal par excellence. Il est offert pour attester la royauté du Messie. L'évangile de Matthieu s'attache à présenter la royauté de Jésus. L'or est le matériau le plus noble par excellence. Ce que nous demandons à Dieu, mieux c'est de rien demander, mais nous demandons. Mais le mieux c'est ce que nous donnons, ce que nous donnons à Dieu, ne doit pas être moindre de la moindre des qualités. Nous devons offrir, nous devrions offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, à l'image de la pauvre veuve qui a donné jusqu'au dernier centime. Avec l'encens, nous sommes face à la divinité de Jésus. L'encens est une résine aromatique qui brûle en dégageant une fumée avec une certaine odeur. On la retrouve souvent dans la description des sacrifices de l'Ancien Testament. En raison de sa fumée qui s'élève vers le ciel et qui se répand partout. Elle est synonyme de prière, d'adoration. Et comme dit le psalmiste, psaume 140, verset 2, « Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. » Je dirais qu'un des cadeaux aussi que Dieu attend de nous, c'est notre encens, nos prières, notre adoration, comme nous l'avons fait ce matin. La myrrhe. Là, nous sommes face à l'humanité de Jésus. Un baume précieux, produit à partir d'une résine rouge importée d'Arabie. Ah oui. La myrrhe était utilisée pour les noces, mais aussi pour les enterrements, pour les sépultures. Et parfois, mélangé avec du vin, ça augmentait sa vertu. Et ça devenait un breuvage qui était parfois proposé aux suppliciés pour atténuer la souffrance. On retrouve un passage dans Marc au chapitre 15, verset 23, où ils en ont proposé à Jésus. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. On te propose un anesthésiant pour ta douleur, et tu ne le prends pas. Moi, je me souviens quand je me suis fait opérer de mon côlon, j'ai souffert la douleur. Ah oui, la première semaine, c'était l'horreur, quoi. Alors, ils m'ont mis une sonnette juste à côté, là. Ils m'ont dit, dès que vous avez mal, vous appuyez, on arrive, et on vous met une dose d'anesthésiant pour que j'ai pas mal. Ben, je peux vous dire que j'ai appuyé sur le bouton, hein. J'ai pas hésité. Hein. Je ne sais pas comment il a fait le Seigneur, mais alors moi, il m'a même donné deux boutons. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il a accepté cette douleur. La myrrhe, ce parfum qui évoque le côté humain de Jésus destiné à la mort et au sépulcre. Il nous rappelle son œuvre de rédemption. Un cadeau que nous pouvons aussi adresser à Dieu, c'est la reconnaissance profonde de son sacrifice qu'il a accompli pour le pardon de nos péchés. Jésus a été le cadeau de Dieu pour nous. Dieu n'est pas venu à nous les mains vides. Il nous a offert un cadeau, le plus beau de tous les cadeaux. C'est vrai que ce n'est pas la période des cadeaux de Noël, mais nous pouvons nous aussi nous poser cette question aujourd'hui. Que vais-je offrir comme cadeau au Seigneur Jésus cette semaine? Quel cadeau puis-je lui faire? Un temps de prière? Un temps de lecture? Un temps de témoignage? Puis les mages, divinement avertis, alors Dieu est dans l'affaire, il est en plein dans cette affaire, il contrôle les choses, il gère tout. Les mages sont avertis en songe. Avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il est vrai que quand nous sommes venus au Seigneur, nous sommes venus par un chemin, mais nous ne sommes pas repartis par ce même chemin. Nous sommes partis par un nouveau chemin, un autre chemin, qui est Christ. Fini le chemin où je suis. Je ne retourne pas sur ce chemin-là. Il ne va m'apporter que des problèmes. Je prends le nouveau chemin que le Seigneur me donne. Donc du coup, les mages, après leur rencontre avec cet enfant, Jésus, ils ne sont pas repartis par le même chemin. Ils ont pris une nouvelle route. Nous sommes tous venus par un chemin à la rencontre de Jésus. Et après notre rencontre avec lui, nous sommes repartis par un autre chemin. L'ayant reconnu comme notre roi, notre Dieu, notre sauveur, il nous a fait repartir par un autre chemin, un nouveau chemin, celui du pardon, de la grâce, de la sanctification. Et je m'arrêterai là-dessus en vous posant cette question. Sommes-nous tous sur ce nouveau chemin? Merci de m'avoir écouté.